qu'il y a du nouveau dans votre supermarché Dia.
Oh, du foie gras ?
Oui, du bon foie gras pour Noël. Parce qu'en ce moment, chez Dia, pour l'achat d'un bloc de foie gras du Sud-Ouest, la Berry, le deuxième est offert.
Est-ce qu'après, on aura le bel accent du Sud-Ouest ?
On a encore plus de raisons d'aller chez Dia. Au rayon frais, 200 grammes, origine France. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Champagne, c'est une émission de fête consacrée au vin des fêtes que nous propose aujourd'hui Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Bénédicte, bonjour à tous. Il y a deux types de producteurs de champagne, ceux qui servent la champagne et ceux qui s'en servent, a dit un jour un grand monsieur de ce vignoble. Mon invité d'aujourd'hui est de la première catégorie, ai-je besoin de vous le dire. C'est Bruno Paillard, président de la commission Appellation Champagne. J'ai aussi demandé au cher Nicolas de Rabaudy, que vous connaissez bien, d'être des nôtres pour cette émission à écouter sans modération.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
310 millions de bouteilles de champagne, de vrai champagne, sont vendues chaque année dans le monde, dont plus de la moitié rien qu'en France. Cela fait plus de 1000 bouteilles toutes les 2 minutes. Le bouchon, le pop, la mousse, les bulles, le rafraîchissoir, les coupes ou les flûtes sont devenus presque partout sur la planète signes de fête, de succès, de joie, de célébration. Et je ne suis pas certain qu'il existe en matière de marketing plus bel exemple d'une réussite absolue. Le vin de champagne, ce vin léger, aérien, pétillant, accessible pour les crus ordinaires et en même temps synonyme d'extraordinaire, ce joyeux breuvage fait partie depuis des siècles de notre patrimoine immatériel, ce que l'on appelle l'art de vivre à la française. À la française, devrais-je dire, avec un accent texan qui rendrait les choses plus exotiques. Or, s'il y a longtemps que l'on fait du vin dans la région champenoise, pourtant très septentrionale, on est dans un vin des limites, et nous allons parler de cela avec Bruno Paillard dans un instant, Pline le Jeune mentionnait déjà le vin d'Aï. Notez bien que jusqu'au XVIIe siècle, ce vin n'était en rien effervescent. Et puis soudain, voici ce qu'écrit en 1736 Voltaire, qui s'enthousiasmait dans Le Mondain. Je le cite. Chloris et Glé me versent de leurs mains d'un vin d'Aï dont la mousse pressée de la bouteille, avec force élancée, comme un éclair fait voler son bouchon. Il part, on rit, il frappe le plafond de ce vin frais, l'écume pétillante de nos Français et l'image brillante. 1736, c'est à vérifier, mais je pense qu'on n'est pas très loin de l'époque où Lancret peint de son côté son déjeuner d'huîtres dont tous les regards sont littéralement portés vers ce bouchon qu'il faut deviner sur la toile, car il est tout petit le bouchon sur la grande composition, mais il en est bien au centre. D'où nous vient cette pétillante écume? La réponse est sujette à caution et je crois savoir que Bruno Paillard n'est pas entièrement d'accord avec celle que je vais vous donner aujourd'hui. Mais celle qu'on donne généralement, c'est la suivante. Elle est le fruit de l'expérience et des expériences d'un moine bénédictin, Dom Pérignon, qui se trouvait être sous Louis XIV, le cellérier de l'abbaye d'Auvillé. Quand je dis sous Louis XIV, ce n'est pas sans raison, puisque, et ça c'est quand même une curiosité que j'ai déjà eu l'occasion de souligner à ce micro et qui est amusante, Dom Pérignon est né en 1638 et il est mort en 1715. Pour ceux d'entre vous qui connaissent bien l'histoire, vous savez que ce sont les dates de naissance et de mort de Louis XIV. Nous sommes donc en présence vraiment d'un contemporain direct de Louis XIV. Et d'ailleurs, cette année marque le tricentenaire de la mort de Dom Pérignon. Pierre, de son prénom, qui était né à Sainte-Ménéhoud dans une famille aisée, une famille de 7 enfants. Il n'a jamais connu sa mère puisqu'elle est décédée quelques mois après sa naissance. Quant à son père, c'était un bon officier de province. Il était chargé du greffe de la privauté, remarié avec la fille d'un marchand. Le père, l'oncle de Pierre, ont des vignes, comme beaucoup de gens dans cette région, de toutes petites vignes, puisqu'on est en présence d'un vignoble incroyablement atomisé. De cela aussi nous parlerons tout à l'heure. Propriétaire de vignes, est-ce qu'il faut déjà y voir un présage? Toujours est-il que celui qui est enfant de cœur à l'abbaye bénédictine de Moirmont se sent naître une véritable vocation. Élève au collège des Jésuites de Châlons-en-Champagne, il entre à l'âge de 20 ans au monastère bénédictin de la congrégation de Saint-Vannes, et Saint-Idulphe, ça ne s'invente pas ça quand même, la congrégation de Saint-Vannes et Saint-Idulphe dans la Meuse, on est à Verdun, dans la Meuse actuelle, il prononce ses vœux. Sa formation intellectuelle est très remarquable, c'est un homme qui a des lettres, notre Pierre. Il connaît très bien l'histoire, et l'histoire sainte, ça va de soi. Il est encore assez loin du travail de la vigne et de la vinification. Enfin, quand je dis qu'il en est loin, peut-être pas tant que cela. Au dire d'un contemporain, il était, je cite, « d'une science égale à son intelligence, d'un caractère charitable et conciliant, d'une délicatesse extrême ». En 1668, il devient donc célérier à l'abbaye bénédictine Saint-Pierre d'Auvillé. On est tout près de la ville d'Épernay. L'abbaye a été fondée il y a très très longtemps par Saint-Nivard au 7e siècle. C'est un lieu de pèlerinage. Elle a déjà produit cette abbaye 9 archevêques de Reims. Très important les archevêques de Reims puisque ce sont eux qui sacrent nos rois, bien entendu. Pierre Pérignon est un jeune moine, il n'a même pas 30 ans. Il n'est donc encore une fois ni vigneron ni scientifique, si je puis dire. Mais il assure le contrôle des vignes et des pressoirs de l'abbaye, qui est en situation assez difficile. À ce moment-là, les établissements ne comptent plus qu'une poignée de moines qui essaient de valoriser les différents domaines de l'abbaye. Très mal, très peu exploité, tout ça n'a pas beaucoup de résultats. Les celliers, les caves, les pressoirs sont quasiment à l'abandon. Et le jeune cellérier décide des travaux. D'abord, il remet tout en état. Il décide surtout d'augmenter au plus vite les revenus de l'abbaye. Et pour ça, il faut tout simplement augmenter la qualité du vin, le vendre plus cher. Première petite révolution, faire du vin blanc avec du raisin noir. Nous y reviendrons tout à l'heure. En 1718, le chanoine Godinot écrit « Il est vrai qu'il n'y a guère que 50 ans que les champenois se sont étudiés à faire du vin gris et presque blanc. » Vin gris, c'est-à-dire ce vin qui est un vin blanc tiré d'un cépage noir. À Auvillé, on faisait déjà une petite quantité de vin blanc avec du raisin blanc, le fameux blanc de blanc. Le problème, c'est que ça demande du beau temps et qu'on est en Champagne. Ce vin se vend très bien, ce vin blanc qu'on obtient à partir du raisin noir. On le pressure très rapidement pour produire des vins blancs. Il n'est pas encore mousseux, ce n'est pas du tout notre champagne. À l'époque, on avait déjà remarqué quand même la tendance de certains crus de champagne, qu'on appelait les vins fous, les sauts de bouchon, à mousser au printemps, à refermenter au printemps. Ce phénomène était considéré comme un problème pour les viticulteurs. Le grand secret des réussites qui durent, c'est qu'on transforme un problème, un obstacle, un inconvénient en un atout, en quelque chose de beau, de bien, et qui va produire, vous allez voir bientôt, des miracles.
Un extrait de La vie parisienne d'Offenbach sur Europe 1. Nous vous retrouvons, Franck Ferrand, dans un instant pour la suite de votre récit sur le champagne.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Bouchon, pop, mousse et bulle, nous poursuivons avec vous, Franck Ferrand, votre récit sur l'histoire du champagne.
La légende, et je souligne ce mot à dessein, veut que Dom Pérignon ait été le premier à découvrir le moyen de faire mousser à volonté le vin de champagne en bouteille, en ajoutant du sucre de canne. C'est-à-dire qu'on rend le vin régulièrement effervescent et non plus accidentellement. Une légende toujours à propos de cet ajout de sucre. À l'époque, les bouteilles étaient bouchées avec des chevilles de bois garnies d'étoupes imbibées d'huile. Et on recherchait un procédé qui soit plus efficace, plus propre, plus esthétique. Alors on a eu l'idée de couler de la cire d'abeille dans le goulot des bouteilles pour parfaire l'herméticité. Le problème, c'est qu'au bout de quelques semaines, tout ça recréait une fermentation. Le vin faisait exploser les bouteilles qui ne pouvaient pas résister à la pression. Le sucre contenu dans la cire, en tombant dans le vin, créait, là encore, une seconde fermentation. Le problème, il fallait contenir donc cette mousse, éviter les explosions. Dom Pérignon réussit à garder prisonnier le gaz carbonique qui provoque cette effervescence en fermant les bouteilles. On utilise à ce moment-là le bouchon de Liège. Alors là encore, c'est la tradition qui veut que deux moines espagnols se soient présentés à l'abbaye, qu'ils avaient avec eux de l'écorce de Liège, et que c'est ce qui aurait donné à Dom Pérignon l'idée du bouchon de Liège. Tout ça, et c'est une belle histoire, on va dire. Autre mérite de Dom Pérignon, avoir limité les effets des sautes de température en faisant creuser la première cave profonde à degré constant dans la craie du sous-sol champenois, même si bien sûr de nombreuses caves existaient déjà et bien bien longtemps avant Dom Pérignon. Le père de la méthode champenoise, c'est ainsi qu'on appelle Dom Pérignon dans la région. La source de cette appellation, c'est une lettre du dernier procureur de l'abbaye qui évoque le contrôle de la prise de mousse par Dom Pérignon. Le problème, c'est que cette lettre date d'un siècle après la mort du moine. Alors, il faut bien sûr se méfier parfois de certaines sources. Est-ce Dom Pérignon qui a véritablement découvert comment faire mousser le champagne à volonté? Dans les faits, ce qu'on peut dire, et ça c'est historique, c'est que Pérignon a recherché un véritable perfectionnement dans l'élaboration des vins de champagne. D'autres moines ailleurs ont d'ailleurs agi de manière similaire. Et le champagne tel qu'on le connaît est certainement une œuvre collective, une œuvre de longue haleine dans laquelle Pérignon prend sans doute sa part, mais il n'est qu'un des maillons de la chaîne, bien entendu. Il a joué néanmoins un rôle majeur. Quoi qu'il en soit, ce nouveau vin pétillant dont on arrive à maintenir la pétillance en bouteille est un succès. Le premier cru de pétillant vendu comme tel date de 1698. C'est très important, on est à la toute fin du XVIIe siècle. En 1700, on commence à parler des vins de champagne comme de vins pétillants. Et ce qui est très intéressant, c'est que à partir de l'année suivante, en 1701, ces vins pétillants valent le double du meilleur cru des autres vins de champagne. Donc c'est gagné en quelque sorte. Ce succès n'est pas seulement dû aux bulles, bien entendu. Il est dû aussi, et c'est très important, au choix des raisins. Et ça, c'est le vrai génie de Dom Pérignon, qui dans ce domaine va se montrer précurseur et qui comprend vite la nécessité de bien choisir le raisin. Son grand mérite est d'avoir marié les différents crus de champagne, de les avoir mélangés de telle sorte que leurs qualités complémentaires s'additionnent pour donner un vin complet. Avec sa personnalité propre, qui est une personnalité, si l'on peut dire, distincte des différents composants. Le domaine comportait 40 hectares de vignes, c'était donc un grand vignoble, hein, c'est le plus vaste d'ailleurs de toute la Champagne. Il faut pas oublier que les vignerons locaux étaient obligés de verser au monastère une partie de leurs raisins, ce qu'on appelait la fameuse dîme, on est encore sous l'Ancien Régime, bien entendu. Dom Pérignon va donc pouvoir utiliser cet état de fait pour perfectionner sa méthode. Il bénéficie d'un très large choix de grappes qui proviennent de terroirs, certes rapprochés, mais néanmoins bien différents. Et le grand talent, pour ne pas parler du génie de Dom Pérignon, ça va être justement cette harmonisation des mélanges. L'abbé Noël-Antoine Pluche écrit, attention, il l'écrit là encore en 1763, c'est la connaissance du bon effet que produisent les raisins de trois ou quatre vignes de différentes qualités qui a porté à la perfection les fameux vins de Sillery, d'Aille et d'Auvillée. Le père Pérignon est le premier qui se soit appliqué avec succès à assortir ainsi les raisins des différentes vignes. Est-ce qu'on peut parler déjà d'un œnologue avant l'heure? En tout cas, c'est lui qui incontestablement comprend la nécessité de choisir le raisin. On dit même qu'il était le seul à le goûter. Le frère Pierre, qui est un élève et successeur du père du champagne, témoigne, je cite, « Le père Pérignon ne goûtait pas les raisins aux vignes, quoiqu'il y allât tous les jours à l'approche de la maturité. Mais il se faisait apporter des raisins des vignes qu'il destinait à composer la première cuvée. » Il n'en faisait la dégustation que le lendemain à jeun, après leur avoir fait passer la nuit à l'air sur sa fenêtre, jugeant du goût selon les années. Non seulement il composait les cuvées selon ce goût, mais encore selon la disposition, les années précoces, tardives, froides, pluvieuses, et selon les vignes bien ou médiocrement fournies de feuilles. tous ces événements lui servaient de règle pour la composition de ces cuvées si distinguées. Vous savez que Dom Pérignon, peu à peu, est devenu aveugle et on dit que cette cécité le rendait tout particulièrement sensible au goût et même au parfum des différents cépages. Et c'est de cette sensibilité particulière que serait né le vin que nous apprécions tellement aujourd'hui.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'histoire de ce pétillant breuvage que nous partageons en ces fêtes de fin d'année, le champagne.
Grâce à tous ces éléments, à tous ces perfectionnements dont je vous ai parlé, on peut dire que le vin de champagne acquiert une certaine excellence. C'est l'excellence qui va faire la réputation de ce vin qui n'est servi véritablement qu'à partir de la Régence. C'est d'ailleurs très intéressant, nous parlions de ça avant que ne commence cette émission, nous en parlions avec Nicolas de Rabaudy et Bruno Paillard. C'est intéressant de voir que le vin de champagne, ce vin effervescent, pétillant, ce vin saute-bouchon, est devenu très vite le symbole de la liberté gagné après la mort de Louis XIV. Comme si la chape de plomb du règne de Louis XIV volait en éclats, on est sous la Régence, on est dans une période de très grande liberté, en tout cas bien entendu dans les milieux très évolués qui tournent autour du régent et donc du palais royal. Et au début, donc au tout début du XVIIIe siècle, ce vin de champagne fait le bonheur des tables aristocratiques et royales, les seuls en quelque sorte à pouvoir s'offrir le précieux breuvage. Dom Pérignon, vous l'aurez compris, est mort en 1715. Il a l'honneur d'être enterré dans le cœur de l'église abbatiale où l'on peut lire, je cite, « S'y gît Dom Pierre Pérignon, pendant 47 ans célérié dans ce monastère, qui après avoir administré les biens de notre communauté avec un soin digne de tout éloge, plein de vertu et en premier lieu d'un amour paternel envers les pauvres, décéda dans la 77e année de son âge en 1715, qu'il repose en paix. » Amen. Il n'aura pas connu, somme toute, Dom Pérignon, l'immense succès de ce vin de champagne qui va connaître alors la postérité. C'est tout à fait extraordinaire ce qui se passe. À partir de 1728, et nous reviendrons bien entendu sur l'édit royal de 1728 qui marque le tournant dans l'histoire du champagne, nous y reviendrons dans un instant avec Bruno Paillard, à partir de 1728, le champagne est défendu comme tel, si je puis dire. On va voir naître, dans tout le cours du XVIIIe siècle, un certain nombre de grandes maisons. Nous verrons quelles sont les plus anciennes, d'ailleurs, aujourd'hui encore. On va voir naître également, vers la fin du XVIIIe siècle, l'exportation de ces vins. Car, et c'est un des miracles du champagne et de la champagne, c'est que l'ensemble des cours royales et impériales d'Europe vont bientôt vouloir se fournir en vins de champagne. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. Alors, c'est évident que la Révolution française joue un rôle très important, puisqu'on vend un certain nombre des biens des communautés religieuses en tant que biens nationaux, et ça, ça rebat les cartes, si je puis dire. Les domaines, les vignobles passent en de nouvelles mains. À l'époque impériale, un homme comme Jean Moët, qui sera fait baron d'Empire, va à Épernay développer, bien entendu, la maison que l'on sait. À Reims, c'est la veuve Cliquot qui a cette idée extraordinaire de lancer le vin à l'exportation. C'est-à-dire que là, il ne s'agit plus seulement de fournir ponctuellement un certain nombre de cours royales, il s'agit d'exporter une partie de la production. On va connaître dans les premières décennies du 19e siècle toutes sortes d'améliorations, du bouchon bien entendu, du muselage du vin grâce à ce petit fil de fer qui fait partie de la magie de l'ouverture, bien entendu, de la magie du champagne. C'est en 1836 que le pharmacien François invente un procédé de dosage du sucre, ce qui va permettre de limiter la casse, si je puis dire. Les bouteilles explosent de moins en moins. Et puis, comme presque toujours, c'est Louis-Philippe et la monarchie de Juillet qui vont fixer les grandes maisons de négoce. Je dis comme presque toujours parce que si l'on regarde l'histoire des manufactures, de la production française dans toutes sortes de domaines, on voit qu'elle s'enracine essentiellement dans cette période incroyablement prospère de la monarchie de Juillet. On est à l'époque du début du chemin de fer. Sous le Second Empire, le développement du chemin de fer va permettre évidemment d'exporter, alors là je parle même à l'échelle nationale, largement les productions. On vendra en 1850 6 millions de bouteilles, 14 millions en 1870, et à partir de là, j'ai envie de dire, ça n'arrêtera plus. Nous allons dans un instant parler de cette appellation champagne, voir à quoi cela correspond sur place. Nous allons parler du nombre d'hectares, du nombre de villages concernés par cette appellation, combien de récoltants également. Nous allons parler de tout ce qui constitue le champagne, bien entendu. Mais ce qu'il faut peut-être souligner pour clore cette introduction sur l'invention du champagne, c'est que Dom Pérignon, dans cette affaire, et vous l'aurez compris, est plus un symbole qu'autre chose. Il est le symbole de cette capacité qu'ont eu tous les vignerons de la Champagne à apprivoiser les extrêmes difficultés du climat, de cette double fermentation dont je vous parlais, etc., pour en faire un atout et pour transformer ce vin au départ un peu ingrat, ce vin gris qu'on avait parfois un peu du mal à vendre, en un vin extrêmement réputé, attendu, demandé, un vin couru à Paris, à Versailles et bientôt dans le monde entier. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous. Alors, je n'ai fait qu'esquisser à grands traits le décor et maintenant, vous allez être les personnages qui entrent sur la scène et qui vont faire parler le champagne.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et nous parlons du champagne aujourd'hui dans Au cœur de l'histoire avec vous Franck Ferrand et avec vos invités Nicolas de Rabaudy, chroniqueur gastronomique et écrivain du vin, et Bruno Paillard, fondateur de la maison Bruno Paillard, producteur de vins de champagne et président de la commission appellation du comité interprofessionnel des vins de champagne.
Alors je sais que vous n'êtes pas tout à fait d'accord d'ailleurs Bruno Paillard avec la primauté accordée à Dom Pérignon dans cette histoire, il faut le dire, peut-être tout de suite.
Non mais d'abord vous avez merveilleusement raconté cette histoire, mais je pense que c'est peut-être un petit peu large pour les épaules d'un seul homme. Je voudrais juste rappeler deux choses. Déjà, dans les papyrus égyptiens, on parle de vin qui pétillait. Et il faudrait comprendre pourquoi. C'est évidemment un phénomène naturel dans certaines conditions. Et puis deuxièmement, je voudrais rappeler qu'en Champagne, rien qu'en Champagne, entre Épernay, Reims, Vertu et Cézanne, vous aviez une dizaine d'abbayes. Il n'y avait pas que celle dont vous avez parlé. Et que toutes rivalisaient, bien sûr, d'ingéniosité autour de ce même sujet. Mais bien sûr, c'est une magnifique histoire, bien utilisée, puisqu'il y a, comme vous le savez, il y a une marque privée qui appartient à un grand groupe.
Oui, bien sûr, oui, Dom Pérignon, bien sûr.
Qui utilise ce nom. Oui. Donc, je n'en parlerai pas davantage, bien sûr, à cause de mon devoir de réserve. Mais voilà.
J'aimerais que nos auditeurs sachent exactement qui vous êtes. Et je vais demander à Nicolas de Rabaudy de vous présenter. Qui est Bruno Paillard?
Bruno Paillard, c'est un champenois, un grand champenois. Surtout, c'est un vigneron qui produit du champagne à son nom. Il est propriétaire d'une trentaine d'hectares et son vin est distribué, vendu dans tous les grands pays de Champagne. Champagne Bruno Paillard, voilà.
Alors, vous nous parliez des origines, Bruno Paillard, de ce vin des limites, je disais tout à l'heure, pour ne pas dire des limesses. On est aux frontières extrêmes des territoires où l'on peut faire du vin.
Et oui, voilà. Mais pourquoi est-ce que l'on est dans cette situation? C'est tout simplement parce qu'il faut rappeler que la vigne à fruits, j'entends, je ne parle pas de la vigne vierge, la vigne à fruits est originaire de la Méditerranée. Et comment est-elle arrivée en France? Eh bien, d'abord, la Champagne n'est pas le plus ancien vignoble français. Il faut rappeler que ce sont les Grecs qui, au VIe siècle avant Jésus-Christ, ont amené la vigne en Provence. Mm-hmm. C'est la Provence le plus ancien vignoble français. Mais quand la Gaule a été envahie par les Romains, à l'époque de Jules César, et pratiquement au début de notre ère, les Romains qui buvaient du vin ont implanté de la vigne un petit peu partout où ils sont allés. Et il faut se souvenir qu'ils sont allés bien au-delà des frontières de la Champagne. Ils sont allés en Belgique, en Hollande, en Angleterre, etc. Ils sont allés en Normandie, en Bretagne, par exemple. Or, ce sont des zones où il n'y a pas de vignes. Et pourtant, ils ont essayé. Donc, c'est intéressant de se poser la question du pourquoi. Eh bien, tout simplement parce que ce n'est pas l'expansion militaire ou économique de l'Empire romain qui a fixé les limites de la culture de la vigne,
c'est
la nature.
Oui,
c'est le soleil, c'est la nature. Dans ces zones-là, eh bien, il y a trop d'humidité, le raisin ne peut pas mûrir, il va pourrir sur pied avant d'arriver à maturité, et c'est la raison pour laquelle la Champagne est l'extrême limite nordique du vignoble européen. Donc c'est le vignoble le plus nordique, et ça a des conséquences énormes sur toute la suite de l'histoire.
Mmh. Alors ça, ce sont les conditions naturelles, en quelque sorte. Il a fallu aussi, pour que se développe ce champagne, des conditions culturelles, Nicolas de Rabaudy.
Bien sûr, parce que la puissance du champagne, son avenir sera qu'il va être adopté par non seulement toutes les cours toutes les cours impériales, les royautés, les gens en place, la grande aristocratie et les gens qui ont des moyens, parce que le champagne est un vin cher. C'est pourquoi, chez Maxime, au début du siècle, il y a...
Au début du XXe siècle, oui.
Au début du XXe siècle, c'est la maison du champagne, parce que la clientèle a les moyens de s'offrir des flacons et des magnums.
Ah oui. D'où vient cette célébrité du vin de champagne au tournant du XVIIIe siècle? Vous me disiez, Bruno Paillard, que ça vient largement de la ville de Reims et des sacres royaux.
Absolument. Il faut rappeler que depuis 496, le baptême de Clovis... par Saint-Rémy, dont le testament mentionne...
498, on ne sait pas exactement, mais en tout cas, c'était à Noël, ça, on en est sûr.
Bon, enfin, j'étais pas...
Oui.
Mais je ferme la parenthèse sur Saint-Rémy, d'ailleurs, puisque son testament mentionne la propriété de vignes. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, les vignes appartenaient essentiellement aux abbayes, pratiquement jusqu'à la Révolution, en tout cas en plus grande partie. Et elles étaient très nombreuses, les abbayes et les archevêchés.
Et donc depuis Saint-Rémy, on sacre les rois à Reims.
Exactement, et le sacre des rois donnait lieu à des festivités, c'était pas juste une heure, n'est-ce pas? Ça durait plusieurs semaines. Et les cours royales de toute l'Europe venaient pour ces célébrations, car n'oubliez pas qu'il y avait des alliances. Absolument, il y avait des alliances souvent familiales qui étaient créées dans un but de paix ou d'expansion, comme on voudra. Et toutes les cours européennes étaient installées à Reims pour ces cérémonies des sacres. Et c'est comme ça que le champagne a été exposé à cette clientèle, si je puis dire, qui l'a apprécié in situ.
Au début du XVIIIe siècle, c'était un vin qui était relativement doux, il faut le dire. Il ne deviendra, entre guillemets, brut que plus tard.
Il y a eu beaucoup d'évolutions à travers les âges, mais là où la période où il a été le plus sucré, ça a été la deuxième moitié du 19e, effectivement, notamment avec les marchés russes et même américains, où là, on a vraiment exagéré dans le sucrage des vins.
On dit que Madame de Pompadour consommait beaucoup de champagne. Le champagne est le seul vin qu'une femme puisse boire sans s'en les dire, aurait-elle dit. Elle était la maîtresse, bien sûr, du roi Louis XV, et l'on doit beaucoup à Louis XV.
Absolument.
On lui doit l'édit de 1728, en l'occurrence.
Alors, c'est fondamental dans l'histoire de la Champagne. Pourquoi? Parce que, avant 1728, le commerce des vins en France ne pouvait pas se faire en bouteille. Il devait se faire en barrique et ensuite être débité, si je puis dire, dans des brocs. Les gens venaient avec leurs brocs se faire livrer chez le marchand de vin.
Enfin, ça se servait
bien. Absolument. Et il y avait pour cela plusieurs raisons. Des raisons de protection de l'énergie qui était à l'époque nécessaire pour fabriquer des bouteilles en verre et qui était le bois.
Or, il ne fallait pas déforester, bien sûr.
Oui.
On gardait le bois pour l'industrie maritime, notamment.
Hein. Absolument. Absolument. On doit beaucoup à Colbert, d'ailleurs, un autre Rémois fameux, pour avoir préservé les forêts.
Et puis surtout, les tonneaux, c'est facile à taxer, alors que les bouteilles,
voilà.
C'est ça.
Et voilà. L'État avait trouvé un truc astucieux, qui est ce qu'on appellerait aujourd'hui un partenariat public-privé, qui consistait à donner à la corporation des marchands de vins, ville par ville, le monopole du commerce des vins, en échange de la levée des taxes. Et donc, les marchands de vins avaient un monopole, bien sûr, donc ils gagnaient leur argent, leur vie, mais ils devaient reverser, et sous peine de perdre leur monopole, ils devaient reverser une partie de leur chiffre d'affaires à l'État. Et c'est évidemment ce lobby, si je puis dire, des corporations des marchands de vins était très opposé à la vente des vins en bouteille. Et c'est finalement Louis XV qui, en signant cet édit de 1728, a libéré finalement le commerce des vins de champagne, parce que préalablement, il était produit, certes, mais c'était à la limite de la légalité, avec des dérogations et pratiquement exclusivement par les abbayes.
Les premières maisons, les toutes premières, parmi celles qui existent encore, ce sont Ruinart.
Juste après la signature par Louis XV de cet édit, donc des commerçants, des bourgeois ont créé des maisons. Et le fameux drapier Ruinart en 1729 à Reims. Et la plus ancienne maison d'Épernay, ce sont les frères Chanoine.
Il y a Lançon aussi, qui est une très vieille...
Oui, Lançon, c'est 1760, c'est un petit peu plus tard.
Vous dites de drapier, là, vous parlez de la profession, mais il y a aussi un champagne drapier qui était celui du général de Gaulle. Mais enfin, je ferme cette parenthèse.
Absolument.
On voit que vous connaissez ça par cœur. Vous êtes champenois depuis longtemps, je crois.
Oui, ça ne se voit pas, n'est-ce pas? Depuis 1704.
vous êtes tombé, dans la marmite, là en l'occurrence, dans le tonneau quand vous étiez petit, d'une certaine manière.
Mon père était courtier en raisin, en champagne, et donc j'ai connu la champagne par ce type d'accord justement entre les maisons et les vignerons.
Le métier de courtier apprend ce qu'est la champagne et ce que sont les crus, ce que sont les propriétaires, ce que sont les viticulteurs. Donc on peut, là, votre métier vous entraîne à savoir où est la qualité des vins et des champagnes que vous allez faire reprendre par des maisons de négoce.
C'était mon ancien métier, bien sûr, puisque je l'ai abandonné quand j'ai créé ma maison.
Un aspect fondamental du champagne, et je pense qu'on a tendance à ne pas suffisamment insister sur cet aspect, c'est l'assemblage, Nicolas Drabaudy.
Voilà, alors ça, c'est...
Faut expliquer en deux mots à nos
auditeurs. Vous en avez parlé pour le Père Pérignon, bien sûr, puisqu'il reçoit la dîme, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs, des dizaines et dizaines de paniers de raisins, qui fait qu'il peut mélanger cette matière première pour arriver à faire un vin unifié. Bruno, c'est ça l'origine, l'assemblage, c'est ça.
On ne dit pas mélanger un champagne. Un champagne,
oui,
on ne mélange pas.
On assemble.
On
compose,
oui,
on assemble.
C'est plus noble, oui.
Oui, c'est plus noble, mais c'est aussi, ça montre une chose. Est-ce que vous avez remarqué que les champagnes portent toujours des noms de personnes?
Eh bien, vous allez nous dire pourquoi dans un instant, Bruno Payat.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Avec vous, Franck Ferrand, nous continuons de nous enivrer de l'histoire du champagne et sans modération. Et avec vos invités, Nicolas Drabaudy, chroniqueur gastronomique et écrivain du vin, et Bruno Payat, fondateur de la maison Payat, producteur de vin de champagne et qui œuvre pour le respect de l'appellation champagne dans le monde.
Nous sommes restés il y a quelques minutes sur une question, sur une devinette, Bruno Payat. Vous nous avez dit, avez-vous remarqué que les champagnes portent toujours le nom d'une personne ? Pourquoi?
Oui, ça porte le nom d'une personne, un champagne. Parce qu'un champagne, c'est une composition. Ça vient autant d'un esprit, autant d'une volonté que d'un terroir.
Création de l'esprit, en fait. Hein.
Un peu.
En partie. En partie.
C'est une composition. Je m'explique. Nous avons vu tout à l'heure que c'est le vignoble le plus nordique qui existe. Et il est donc celui où les vignes sont soumises au climat le plus difficile. Et si vous faisiez votre champagne avec toujours la même parcelle tous les ans, vous auriez des variations dues aux variations climatiques absolument considérables dans votre qualité. Donc la seule façon d'avoir une qualité constante et d'être fidèle au code ADN que vous avez défini pour votre qualité, à l'exigence de qualité que vous avez, c'est de composer votre champagne en fonction de multiples facteurs qui sont non seulement les crus, mais aussi les années. Et ce que l'on ne sait pas, c'est que le champagne est probablement le seul vin dont plus de 90% de la production ne porte pas de date de millésime. Dans toutes les autres régions, regardez, vous avez toujours la date de millésime. En Champagne, c'est assez rare, les millésimes.
On en fait
production.
Quelques-uns. C'est-à-dire que quand vraiment une année est exceptionnelle, on a tendance à la millésimer, en tout cas, sur une partie de la production.
Absolument. Dans ce cas-là, on peut en garder une partie que l'on va vinifier séparément, sans aucun vin de réserve, et qui portera l'année en question sur son étiquette.
D'ailleurs, on peut peut-être évoquer un certain nombre de grandes années. On ne millésime en Champagne que depuis 1825. Donc ça, c'est pour la dimension légale. Et alors, je vais vous citer quelques années. Vous allez me dire si vous êtes d'accord, mais 1892 a été particulièrement réputé. 1911, très grande année. 1928 également. Alors, j'ai eu la chance, moi, de goûter de ces deux millésimes. Vous aussi, des crucs, en l'occurrence.
Oui, 1914, qui est une année particulièrement émouvante parce que, avec la mobilisation et la ligne de front, ce sont les femmes qui ont vendangé et les hommes étaient partis.
Et oui, bien sûr. Alors, 52, 53, 54. 55.
Oui.
Bon, 59, ça, j'allais dire, c'est comme dans bien d'autres vignobles. 64, 75, 76. 76, c'est la canicule. Enfin, oui, c'est la canicule.
76, ça a été la première année de sécheresse en France. Je crois qu'il y en a même créé un impôt.
Oui, n'est-ce pas, l'impôt sécheresse, c'est vrai. Dans ce domaine, nos gouvernants savent toujours inventer. 82, 85. 1990 aussi, on peut considérer que c'est une...
Oui, mais vous avez sauté 83, il y a une année absolument extraordinaire, le sens étymologique du terme, ça veut dire que 83, bon, année de la canicule cette fois-ci, c'était pas la sécheresse, c'est la canicule, c'est un peu différent. Certains en Champagne ont préféré ne pas l'évoquer ou le zapper en quelque sorte, mais ça a donné certainement les vins les plus extraordinaires du début de ce millénaire.
95, 96 évidemment, 2002, 2003, vous me disiez 2003 avant que ne commence l'émission, vous me disiez c'était une année importante.
C'est ce que je voulais dire, c'est à propos de 2003 que je viens de m'exprimer.
Oui, voilà, c'est ça, c'est la fameuse canicule dont vous parlez, c'est 2003.
Oui, c'est 2003, excusez-moi.
2004, 2006, 2008, vous dites qu'on va être surpris en 2008 aussi.
À 2008, c'est intéressant, mais les années en 8 en Champagne récemment ont des profils relativement, c'est curieux, relativement similaires. Un peu comme les années en 5 sont des années plutôt gourmandes, les années en 8 sont des années plutôt tendues.
Ouais, là, ça va faire curieux. Plaisir aux numérologues, ce que vous êtes en train de nous dire. Ce qui est incontestable, et ça c'est scientifique, c'est que on a l'impression que plus on avance dans le temps, et plus sont nombreuses les grandes années. Il y a de plus en plus de millésimes, en fait, notamment là depuis le tournant du siècle. qu'il y en a beaucoup quand même. Vous rendez compte, 2002, 3, 4, 6, 8.
Oui, c'est exact. Alors, je dois dire que qu'est-ce que c'est qu'un grand millésime en Champagne? C'est une année où nous estimons que la maturité est assez élevée, liée à un état sanitaire impeccable et à quand même une acidité encore suffisante pour que tout cela ait tenu dans le temps. Donc, ces trois facteurs réunis, on ne les a pas tous les ans en Champagne. Je le rappelais tout à l'heure, nous sommes le vignoble le plus nordique. Mais avec le réchauffement climatique, et je ne porte pas de jugement sur sa cause ou sur sa durée, mais en tout cas, c'est un fait que pour la Champagne, pour le moment, j'ose à peine le dire, mais c'est plutôt bon.
On a beaucoup, depuis le début de cette émission, joué sur les articles « le champagne »,« la champagne ». Vous dites, Nicolas de Rabaudy, il n'est de champagne que…
Que de la champagne.
Que de la champagne.
Voilà, ça c'est une phrase absolument capitale pour nous qui aimons ce vin de luxe, hein, pour dire les choses comme elles sont, parce que ça signifie qu'on ne peut avoir du champagne que dans le terroir délimité par l'appellation et pas ailleurs.
C'est-à-dire un peu moins de 35 000 hectares.
Oui, voilà. Vous savez, mais savez-vous que c'est une phrase qui remonte à un jugement de 1894 après des bagarres avec d'autres régions viticoles françaises qui voulaient prétendre que le mot champagne, après tout, n'était pas lié à une région, mais pouvait simplement décrire un vin effervescent, vinifié, en bouteille.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on fait un bon vin mousseux un peu n'importe où et on l'appelle champagne, en fait.
Voilà.
C'est ça l'idée.
La Cour de cassation a réglé ce problème contre des collègues d'autres régions françaises.
De la Loire, en l'occurrence, il faut le dire.
Pas les citer, ah voilà, Saumur et Vouvray, ils ont mené une petite guerre qui a duré 50 ans tout de même, avec beaucoup de rebondissements dans tous les sens. Mais enfin, finalement, à chaque fois, la cour d'appel d'Angers donnait raison aux Champenois, et la cour de cassation aussi. Mais nous avons ce problème au niveau planétaire, en dehors de
35 000 hectares, c'est un assez petit vignoble quand même, il faut le dire. Et alors surtout, c'est un vignoble qui est complètement atomisé. Il faut voir la carte du vignoble de Champagne. Ça, c'est très passionnant. On a l'impression de, c'est moucheté, en vérité. Hein. Ce sont plein de toutes petites parcelles, en vérité. Hein.
Oui, c'est exact. Le vignoble de Champagne, aujourd'hui, est deux fois plus petit qu'au XIXe siècle. Mais quand même, il s'étale sur 319 communes.
Alors, les célèbres, c'est Reims, Épernay, Chalon, bien sûr, mais aussi Haï, Auvillers, dont je parlais tout à l'heure, Cramant, Vertu, Siry, 319 en tout, donc. Hein.
319 communes, absolument. Mm-hmm. À peu près, les deux tiers sont dans la Marne, à peu près 20% est dans l'Aube, qui a rejoint la Champagne il y a à peu près un siècle. C'est relativement récent, mais il y a eu de longues bagarres aussi à ce sujet.
Et beaucoup, beaucoup de récoltants.
Alors, il y a une superficie de propriété moyenne qui est très faible en Champagne, puisque il y a à peu près, pour ces 34 000 hectares, il y a à peu près 260 000 parcelles et 20 000 déclarations de récolte. Donc, ça veut dire effectivement une propriété moyenne petite. Mais c'est beaucoup de travail, parce que ce sont des vignes très denses, qui demandent beaucoup de soins, elles sont travaillées comme des jardins et on estime que une personne peut faire au maximum 2 hectares comme travail à plein temps. Et vous avez aussi beaucoup de personnes qui ont une vigne par héritage familial, mais qui ont un autre travail et qui le font à temps partiel.
Alors sur les dizaines de millions de bouteilles qui sont produites chaque année, de vrais champagnes, hein, je précise, je disais tout à l'heure que plus de la moitié sont consommées en France, mais en valeur, ça représente entre un quart et un tiers en fait. C'est-à-dire que les grands champagnes, ceux qui coûtent très cher, s'exportent en fait.
Bien sûr. Toutes les grandes maisons ont eu des ambassadeurs qui ont vendu le vin partout. On cite Charlie Tsik, hein, qui était un grand monsieur, un aventurier formidable, qui a été, je pense, mis en prison aux États-Unis. Donc, ces gens-là, ils parcouraient le monde avec leur vin sur leur cheval ou dans des carrioles. Enfin, c'est une aventure phénoménale. Hein, phénoménale.
Et le travail qui a été fait au tournant du XXe siècle pour protéger l'appellation champagne à l'intérieur du pays, il a fallu le faire au tournant du XXIe siècle pour protéger cette appellation à l'échelle planétaire, Bruno Paillard. Ça, c'est votre travail en tant que président de la Commission.
Oui, ça, c'est une fonction bénévole que j'exerce au titre de la Commission de défense de l'appellation et qui est fait, le travail effectif est fait par les juristes que
nous
avons
recrutés. Vous-même, d'ailleurs, vous exportez 80% de votre...
La Maison Bruno Paillard, nous exportons 80% effectivement vers 35 pays. Donc, je suis concerné, bien sûr. Même si ma maison est toute petite. Mais la défense de l'appellation dans le monde, c'est un véritable sujet qui a pris... un envol encore plus fort dans les les 20 dernières années, parce qu'il y a eu des atteintes à l'appellation en France même, on pourra en parler après, mais pour reparler des pays étrangers, il ne faut pas chercher très loin. L'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, enfin un grand nombre de pays producteurs de vin utilisaient le mot champagne pour décrire leur vin mousseux, comme s'ils considéraient...
Ça n'est plus le cas aujourd'hui.
Alors, ça n'est plus le cas partout. Beaucoup de pays ont enfin reconnu que champagne est bien la combinaison d'une indication géographique et d'une méthode de vinification, et que donc il n'est de champagne que de la champagne, comme la Cour de cassation l'avait dit en 1894, mais il fallait encore faire admettre cela dans d'autres pays qui ont chacun...
Oui, et vous me disiez que même l'Inde, même la Chine, petit à petit, reconnaissent cette appellation française champagne. Et les deux pays qui posent problème aujourd'hui, mais nous n'aurons pas le temps d'en parler maintenant, c'est la Russie et bien sûr les États-Unis, hein, puisque...
Oui, nous avons eu quand même le bonheur d'enregistrer dans les trois dernières années la reconnaissance par des pays aussi importants que le Brésil, que l'Inde, que la Chine. La Chine, nous avons quand même pu faire saisir et détruire en Chine des champagnes, entre guillemets, américains, c'est-à-dire des vins mousseux, de cuves closes étiquetés champagne, qui prétendaient se vendre en Chine. Donc aujourd'hui, il nous reste deux grands problèmes. Effectivement, la Russie, qui utilise le terme champagne-skoye, qui est la translation en cyrillique du mot champagne. Nous étions prêts d'aboutir à un accord. Malheureusement, l'affaire de Crimée a fait capoter les choses et nous espérons qu'une normalisation interviendra.
Et puis les États-Unis, bien
sûr. Les États-Unis, alors il y a en ce moment, comme vous le savez, ça concerne beaucoup de domaines, la grande négociation de free trade Europe-États-Unis
le sujet des indications
géographiques.
Oui.
Voilà. Absolument. Le sujet des indications géographiques, champagne en tête, est sur la table et nous travaillons en étroite collaboration avec la Commission européenne pour qu'elle ne lâche pas sur ce sujet.
Ce qui est sur la table depuis quelques jours et jusqu'au 31 décembre et même un peu plus tard, j'espère, c'est le champagne lui-même. Et je n'ai pas besoin de vous le dire, mais si, j'ai besoin, ne serait-ce que parce que c'est une obligation légale de consommer tout cela avec beaucoup de bonheur, mais avec modération. Merci beaucoup, messieurs. J'allais dire champagne. Et bonne fête maintenant.
Bonne fête à vous aussi.
Merci Franck Ferrand.
Dans un instant sur Europe 1, Franck Ferrand répondra à la question de Marguerite qui se demande si la farine de sarrasin qu'on utilise pour faire les crêpes a un rapport avec les sarrasins du Moyen-Âge.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez maintenant, Franck, à la question de Marguerite qu'elle a posée via le site internet d'Europe 1, europe1.fr, qui est la suivante. Pourquoi nous parlons de la farine de sarrasin pour faire des crêpes? Est-ce que cela a un rapport avec les sarrasins?
Oui, c'est bon, les crêpes au sarrasin, il y a deux types de crêpes. Hein. Vous savez, celles au sarrasin qui sont le plus souvent salées, qu'on appelle d'ailleurs dans certaines régions les galettes, et puis les crêpes de froment, bien entendu, qui généralement sont sucrées. Alors, on les appelle ainsi parce que on utilise pour faire la pâte de la farine de sarrasin qui est obtenue à partir d'une plante herbacée, le sarrasin qu'on appelle aussi le blé noir. Alors, est-ce que ce nom de sarrasin vient des sarrasins du Moyen-Âge? Vous savez, les sarrasins, c'est peuple de l'Orient. Ce que nos ancêtres appelaient les sarrasins, c'était les Arabes qui venaient essentiellement de la péninsule hispanique et qui franchissaient les Pyrénées. Ce sont ceux qui ont tué le neveu de Charlemagne, Roland, bon, etc. Alors, il semble bien, en effet, que le nom de la farine de sarrasin vienne de est un rapport avec les sarrasins. D'abord parce que c'est une plante qui vient d'Orient, d'Asie centrale, donc de l'Est, ce qui lui donnait une origine réputée sarrasine. Et puis, et c'est une autre hypothèse, relevée par le dictionnaire historique de la langue française, d'Alain Rey, le terme viendrait de la couleur sombre des graines produites par cette plante, qui aurait rappelé le teint des sarrasins. Alors d'où vient-il le mot même, ce mot sarrasin? Ça vient du grec sarakenoi, mais quelle est l'origine du terme? Certains pensent qu'il découlerait d'un terme de langue arabe qui signifie « de l'Orient » ou « orientaux » et ensuite il aurait été diffusé à travers le monde européen pour désigner des ensembles de populations assez différents au fil du temps. Voilà, je pense avoir répondu de façon à peu près complète, comme la farine du même nom.